Bonjour. Donc, je suis là pour, comme le vient de dire Liliana, restituer les réflexions et les propositions d'un groupe de travail d'une dizaine d'associations. Donc, je ne parle pas en mon nom propre, je parle au nom de ces 10 associations qui nous sommes rencontrées ces 2 dernières années. Hein, hier soir, je calculais, on s'est rencontrés 8 jours quasiment, hein, 4 fois des séances de 2 journées. Et donc, qui avons travaillé ensemble sur l'harmonisation et la formalisation de la pratique de l'interprétariat médical et social en France en 2012. Nos associations, même si beaucoup d'entre vous sommes là, en fait, je vais faire le tour de qui sommes-nous. Il y a ISM à Paris, ISMS à Metz, ISM Corum à Lyon, ASAMLA à Nantes, RVH 35 à Rennes, Aptira à Angers, Mana à Bordeaux, Cofrimi à Toulouse, ADAT à Grenoble et Migration Santé à Strasbourg. Nos associations réparties dans toute la France interviennent dans le domaine de la promotion de la santé depuis une quarantaine d'années pour les plus anciennes. Elles ont comme principal objectif un égal accès aux droits et à la santé des personnes migrantes. Pour ce faire, elles ont développé des services d'interprétariat mis à disposition des institutions sanitaires, sociales, administratives et éducatives pour faciliter leurs relations aux personnes non francophones. En 2011, pour nos 10 associations, cela a représenté 260 000 heures d'intervention, 110 langues de travail et environ 700 interprètes. Pour rappel, comme Muriel l'a déjà redit, ISM Corum avait organisé un colloque en 2006 autour de la question « L'interprétariat en milieu social, instrument d'une politique publique de non-discrimination ». En mars 2010, ISM Paris avait organisé au ministère de la Santé un colloque intitulé « Interprétariat, santé et prévention ». Ce dernier colloque avait permis aux acteurs, mais surtout aux instances sanitaires et sociales, d'acter pleinement l'intervention d'un interprète en consultation médicale et sociale lorsque les bénéficiaires, patients et professionnels de santé ne partagent pas la même langue. Cela avait été un moment important, une première étape dans la légitimation de la présence d'un interprète par rapport à la question de l'obstacle linguistique. L'interprète était enfin reconnu comme un levier incontournable à l'échange entre les acteurs du santé et du monde social pour un exercice plein de leurs fonctions et du côté des patients pour leur participation effective à ce qui leur arrive. Ce, bien évidemment, également stimulé par les lois 2002 autour du droit des usagers et des patients hospitalisés. À l'issue de cette journée, le groupe de travail s'est constitué à l'initiative de Migration Santé pour approfondir ce que recouvre la qualification de l'interprète et travailler à partir des interrogations suivantes. Qui sont les interprètes? Que font-ils? De qui parlent les soignants et les travailleurs sociaux quand ils font appel à un interprète? Et du côté des structures associatives, lorsqu'elles missionnent des interprètes professionnels, quels sont les gages de qualité et de compétences qu'elles visent? Le travail de traduction est généralement méconnu en France. Danica Seleskovitch, alors Clara Donovan l'a déjà évoqué, spécialiste de cette discipline, parlait de la France comme un pays porté, du fait de sa longue hégémonie linguistique, à l'insouciance à l'égard de la traduction. Elle rajoutait « Défendre la langue française, c'est aussi offrir des relais fiables dans les vecteurs de la pensée que sont la traduction et l'interprétation. » Nous inscrivons dans le prolongement de ces propos, nous voudrions, à travers cette démarche collective de conceptualisation, sensibiliser et rendre vigilants les acteurs professionnels des milieux médicaux et sociaux aux exigences et aux responsabilités du travail d'interprète. Retraçons dans un premier temps l'histoire de notre démarche. Il s'agit au départ, pour la plupart de nos associations, d'un engagement militant pour la promotion de la santé des personnes migrantes. Cependant, nos actions se sont professionnalisées au fil des années. Chaque association a été rapidement attentive aux aspects déontologiques spécifiques de la fonction de l'interprète missionné et en a posé les principes. Fidélité de la traduction, confidentialité et secret professionnel, et impartialité. Elles ont réfléchi à leur mise en œuvre et à leur confrontation aux pratiques vécues dans les contextes délicats que représentent les situations de soins et d'entretien sociaux. Pour ce faire, chacune d'entre elles a développé des partenariats avec des chercheurs et des professionnels de différents horizons, anthropologues, psychiatres, psychologues, démographes, philosophes, juristes, et a construit des dispositifs d'accompagnement des interprètes embauchés à travers l'organisation de formations initiales, de tutorat, de formations continues, mais aussi par la mise en place de groupes d'analyse de pratiques. Dans cette visée déontologique, elles ont, au cours de ces nombreuses années d'expérience, continuellement défendu la différence entre une personne, un ami, un membre de la famille, qui, parce qu'elle parle deux langues, va dépanner, et un interprète formé, accompagné, ayant réfléchi aux difficultés et aux enjeux de l'acte de traduction. Ainsi, après 40 années de maturation, tels nos meilleurs grands crus, sur chacun de nos terroirs, nous avons décidé de nous regrouper, fortement conscients de la nécessité de nous engager dans une démarche nationale. Nous inscrivant dans une méthodologie de recherche-action, nous avons mutualisé nos pratiques et nos réflexions, collecté les travaux internes, les avons confrontés à des lectures de spécialistes de la traduction et d'autres disciplines. Au cours de ces deux dernières années, nous nous sommes accordés sur les fondements du travail médical et social. En voici la restitution. Cette restitution doit permettre, nous l'espérons, en premier lieu, de dépasser la méconnaissance des exigences du travail d'interprète. Cette méconnaissance provient à la fois des personnes qui sont sollicitées ou se proposent d'elles-mêmes parce qu'elles parlent deux langues, et des professionnels de la santé et du social. Les premières, qui parlent deux langues, se sentent assez spontanément obligées d'intervenir. Je dois mettre à disposition mon savoir, puisque je parle deux langues. Je peux aider mon compatriote ou le docteur, disent-elles. En formation initiale, les nouveaux interprètes disent presque systématiquement qu'ils s'engagent dans ce métier pour être le guide, éclairé, ne pas laisser l'autre dans l'ignorance, ne pas le laisser dans un sentiment de solitude, d'abandon. Nous observons que les motivations initiales relèvent de ce désir d'aider. À ce stade, les personnes sous-estiment largement la complexité de l'acte de traduction, plus particulièrement les difficultés inhérentes à la technique de traduction consécutive, mais surtout les enjeux de mise en œuvre des principes déontologiques. De façon succincte, même si c'est caricatural, ce n'est pas parce que je parle deux langues que je suis naturellement interprète. Je ne peux pas me situer naturellement dans le respect des principes déontologiques, ni dans ce que représente l'acte de traduction. Comme toute fonction professionnelle, je dois m'y préparer, pouvoir analyser ce qui se passe, y intégrer des savoirs. Cette prise de conscience émerge lors des formations que nous proposons. La méconnaissance des exigences du métier provient aussi des professionnels de la santé et du social. Alors qu'ils savent ce qui peut être ou non demandé à une sage-femme, à un médecin, à un éducateur, à un travailleur social, ils n'ont encore que peu envisagé, peu réfléchi aux fonctions spécifiques de l'interprète. Dans la pratique au quotidien, des interrogations surgissent, des maladresses surviennent dans la collaboration, des glissements s'opèrent. Puisque l'interprète parle la même langue que l'usager, ces compatriotes-là ne seraient-ils pas amis ? Et alors moi, soignant ou travailleur social, ne serais-je pas tenté de lui confier d'autres demandes, d'autres rôles, comme ceux de brancardier, quand je lui propose d'accompagner l'usager après la consultation au service de radiologie, ou d'accompagnateur social, quand je lui demande de le guider dans ses paperasses, voire même d'écrivain public si je lui demande de remplir les dossiers. Finalement, comment les professionnels se représentent-ils la relation de l'interprète à l'usager, mais aussi leur propre collaboration avec l'interprète s'ils ne connaissent pas son territoire d'intervention? Comment vont-ils travailler avec lui? Qui vont-ils regarder durant l'entretien? Quelle place et quel temps prévoient-ils à la traduction lors de la consultation? Quelle confiance peuvent-ils lui accorder? Quel risque, supposé et réel, cette tierce personne induit? Cette restitution doit ensuite permettre de délimiter les contours du travail d'interprète. Dans une volonté de lisibilité et de visibilité à l'égard des interprètes eux-mêmes, que des structures auxquelles sont rattachés les professionnels de la santé et du social qui ont recours, nos propos ont pour souci d'expliciter, de mettre en lumière ce que fait l'interprète et ce qu'il n'est pas, de lever le voile sur ce qui se joue dans une consultation avec un interprète professionnel, mais surtout de témoigner en quoi la qualité professionnelle de son intervention enrichit, nuance, affine la conversation entre les deux interlocuteurs. Que pouvons-nous dire en quelques mots, sachant que les ateliers prévus cet après-midi développeront largement les thèmes présentés? Parmi les dénominations possibles, le groupe de travail a retenu le nom d'interprète médical et social, ou selon le contexte, d'interprète en milieu médical et social. Par ce choix, nous soulignons le fait que son exercice fait appel à des connaissances issues d'une double filiation, celle de la discipline de la traduction et celle plus thématique en lien avec des contextes d'intervention des champs médical et social. L'interprète médical et social appartient à la famille de l'interprétariat de liaison, c'est-à-dire, pour les profanes, qu'il effectue un travail de traduction orale, ce qui est différent de la traduction écrite, qu'il intervient en présence des deux parties, que l'interprète restitue in vivo les propos d'un dialogue, d'une conversation entre deux personnes ou des propos d'un petit groupe. Il restitue par séquençage le sens de tous les propos émis de l'un à l'autre et assure une veille de compréhension à la différence de l'interprétariat de conférence. Nous avons, au cours de notre cheminement collectif, dégagé et distingué trois axes, trois piliers, trois fondements pour cette pratique. Nous les avons nommés traduction orale, disponibilité et attention interculturelle, distanciation. Ils constituent les fondements de l'exercice d'interprétariat médical et social pour le respect des principes déontologiques. Ils permettent d'identifier des compétences distinctes et d'améliorer les dispositifs de formation et d'accompagnement. Le premier, et non le moindre, concerne la traduction orale, cœur du métier ou autrement dit, son noyau dur. La traduction orale, c'est-à-dire l'interprétation, dans nos milieux l'interprétariat, est souvent perçue comme le parent pauvre de la traduction écrite en étant l'exercice d'élite ou de noblesse. Cette idée courante est portée par des personnes, médecins, éducateurs, travailleurs sociaux, qui pensent que le langage au quotidien ne nécessite pas de terminologie spécifique, mais aussi par une partie des spécialistes de la traduction eux-mêmes. Ces perceptions méritent d'être réajustées. Les traductions orales, comme écrites, présentent chacune leurs difficultés. Danica Seleskovic, elle-même, dans l'introduction de son livre coécrit avec Madame Lederer, interprété pour traduire, confronte le caractère figé du texte écrit à l'évanescence du discours oral. En nous référant à sa pensée, analysons la question de la temporalité. Si face à un texte écrit, le traducteur peut et doit, dans le souci de fidélité, prendre le temps d'analyser les éléments constitutifs d'un texte, la terminologie et la syntaxe de la langue, la situation d'interprétariat de liaison nous place dans une temporalité différente. La conversation crée un va-et-vient de propos dans lesquels les traductions doivent se glisser. L'interprète doit immédiatement, consécutivement, s'adapter, s'ajuster à la progression du discours sans pouvoir dégager la langue de l'enchaînement des paroles. Dans nos contextes, que va induire la symétrie relationnelle entre un usager, un patient, et le médecin, l'assistant social dans la traduction? Les niveaux d'expression, des nuances et des registres de langage adoptés par ces protagonistes diffèrent inévitablement sur le plan linguistique et émotif. Permettez-moi une illustration, même si elle est schématique. À l'hôpital, les professionnels peuvent avoir tendance à user de vocabulaire technique, un jargon, ou faire preuve d'un discours distancié, alors que les propos du patient relèvent du fait même du contexte, de l'émotion, des affects, de l'étonnement, de la perplexité. Or, d'un point de vue opératoire, traduire une conversation entre un médecin, un psychologue, une assistante sociale et son usager ou son patient va, comme pour tout interprète, se décliner en deux grands processus. La restitution des propos de chacun au plus près de leur sens respectif, conformément aux principes déontologiques, grâce à des qualités d'écoute, de mémorisation, de compréhension, de richesse et de réactivité linguistique, d'une part, mais aussi la veille de compréhension propre à l'interprétariat de liaison. L'interprète doit avoir conscience qu'il a, du fait des effets immédiats que produit sa traduction dans l'entretien, la responsabilité de la compréhension de sa traduction par les protagonistes en veillant à la bonne réception de ses propos traduits. Comment cela se joue-t-il alors en termes de responsabilité en cas d'erreur, de faiblesse de traduction ? Danica Seleskovic insiste sur ce point également pour distinguer traduction écrite et traduction orale. Face à la médiocrité de certaines traductions écrites, le lecteur a la possibilité de s'attarder, de suppléer par la réflexion au manque de clarté, ce qui n'est pas le cas de l'auditeur lors d'une conversation. Cela l'amène à dire que si l'erreur de méthode rend la traduction écrite opaque, elle rend la traduction orale inopérante. Dans le contexte médical et social, et même plus large en ayant écouté Mesdames Bézia et Donovan, nous pourrions même dire risquée, voire dangereuse. Nous appuyons sur l'exemple de la prescription médicale et de son observance, l'interprète de liaison doit mesurer autant les conséquences d'une mauvaise restitution que d'une mauvaise compréhension de celle-ci. La performance de l'interprète est notamment réalisée grâce à l'adoption par celui-ci d'un double mouvement, présence-retrait. Présence, en faisant preuve d'écoute neutre, de concentration, de disponibilité aux propos, sans se laisser déstabiliser par la teneur des contenus, les bruits de l'environnement, la pression du contexte et des attitudes et ou le surgissement des affects face à des situations inattendues ou dramatiques. Retrait, visant à ce que la conversation ait lieu comme si il n'était pas là. En effet, dans un souci de fluidité de la conversation, il doit pouvoir jouer de façon subtile et déterminée avec le rythme de l'entretien en sachant intégrer ses séquences de traduction tout en étant vigilant à la compréhension des propos qu'il traduit pour que le dialogue soit opérant. Nous espérons vous avoir fait percevoir plus concrètement les enjeux et les exigences spécifiques de la traduction orale. Le deuxième pilier, nous l'avons nommé disponibilité et attention interculturelle. Nous utilisons volontairement le terme d'interculturel et non pas de culturel. Ce choix, bien évidemment, n'est pas anodin. Précisons en premier lieu que nous ne séparons pas la langue de la culture. Cette affirmation peut paraître une évidence aux profanes, mais lorsqu'on interroge les chemins qu'emprunte la restitution du sens d'une langue à un autre, on approche une vraie complexité. Mesdames Donovan et Bézia viennent de l'exposer. La langue est vecteur du fait culturel et l'interprétation ou interprétariat ne peut être compris comme un simple mouvement mécanique de décodage, réencodage. L'interprète comprend et restitue grâce à la pertinence de sa prise en compte des contextes, à sa capacité à le faire. Vient ensuite, du fait qu'il intervient dans le registre de l'interprétation de liaison, son autre responsabilité de veille de compréhension, qui exige de lui une attention spéciale, la vigilance à la survenue d'incompréhensions et ou de malentendus entre les interlocuteurs. S'apercevant d'une conversation altérée, inopérante, l'interprète peut ou va alerter. Il peut, selon des techniques de traduction, reformuler ses traductions, renvoyer des questions aux interlocuteurs. Or, plusieurs éléments peuvent être enchevêtrés dans les malentendus d'une conversation. Des éléments linguistiques, certes, mais aussi des aspects psychologiques et contextuels. C'est à ce moment-là que certaines situations peuvent amener l'interprète à sortir de la traduction selon des règles bien précises. En troisième constat, en effet, nos nombreuses années d'expérience nous ont montré que dans les contextes d'intervention sociale et médicale, l'interprète est souvent attendu à une place d'expert, de connaisseur de la culture du migrant de la part du professionnel, et de façon moins évidente, perçu par la personne non francophone comme celui qui aurait des clés de lecture des institutions sociales, administratives et sanitaires. Pour l'un et l'autre, il est supposé savoir et est investi de pouvoir présumer. Ainsi, du fait même de la traduction, puis du fait de la spécialité de liaison, enfin du fait de milieux d'intervention qui mettent en face à face, dans une relation inégale, deux interlocuteurs, la question de la culture est omniprésente, les risques de glissement sémantique et donc réel existent. Nous avons choisi le terme interculturel pour souligner le croisement au cœur duquel l'interprète effectivement se trouve et doit maintenir son action. Sur ces trois registres que nous venons de citer, les compétences interculturelles de l'interprète sont sollicitées. Sur le registre de la traduction, parce qu'il doit savoir choisir, ajuster ses mots, ses propos au service d'un sens qui est culturellement négocié par chacun. Sur le registre contextuel de liaison, parce qu'il se situe inévitablement à la croisée de cultures multiples et dynamiques, individuelles, professionnelles, institutionnelles, de registres, de codes de langage, mais aussi d'usage entre différentes singularités et différents contextes. Cela peut être vu de façon binaire, entre celui qui est malade et celui qui soigne, celui qui est demandeur de droits et celui qui en est pourvoyeur, celui qui vient de la ville ou du village, celui qui a été à l'école ou non, mais aussi de façon plus complexe du fait de la pluriappartenance culturelle de chaque être humain. Cela se complique encore quand on sait que l'interprète passe d'un service de santé hospitalier à un autre, des urgences en cancérologie, en psychiatrie, d'une consultation PMI à un entretien de demande d'asile en foyer social, d'un travailleur social à un autre, d'un médecin à un autre. De fait, au cours de ces différentes interventions, il navigue, transite d'un monde et d'un système culturel à un autre et doit rester à chaque fois centré et responsable de ses traductions. Le troisième registre relève du relationnel. En se référant au principe d'impartialité, l'interprète n'a à se positionner ni comme sachant culturel, ni comme vulgarisateur, ni comme tampon lisseur de cette relation. Il n'a pas à se substituer à l'une ou l'autre des parties. Il doit pouvoir résister et centrer ses efforts sur l'acte de traduction sans se laisser entraîner, aspirer dans des dérives culturalistes. Les formations et analyses des pratiques sont indispensables pour que l'interprète, pressé par ses multiples attentes, et lui-même tenté de pouvoir enfin s'exprimer en son propre nom, puisse s'en dégager. Nous avons volontairement isolé ce deuxième fondement, disponibilité et attention interculturelle, car il pose à l'interprète de liaisons médicales et sociales, de façon subtile et complexe, des enjeux linguistiques et des enjeux de positionnement pour lesquels il est essentiel qu'il soit préparé. Le troisième pilier se nomme distanciation. Il est en quelque sorte la clé de voûte de l'édifice. La mesure de ce qui se joue, de ce qui est mobilisé dans les interventions d'interprétariat médical et social, est déjà amplement posée, il nous semble. Ces interventions amènent inévitablement l'interprète à être pris par les situations, et ce, d'autant plus qu'il exerce son métier en solitaire. Les deux premiers fondements ne peuvent être opérants, atteints, sans ce troisième qui en constitue la clé de voûte. Explicitons. Accumuler en lui tous les propos traduits au cours de ses journées peut entraîner une souffrance qui ne doit pas être minimisée. Si l'on peut dire qu'il a la maîtrise des deux langues, les situations sociales ou de soins lui échappent complètement. Mais il va, à travers des mécanismes psychologiques d'identification, de projection ou de défense inhérents aux situations relationnelles, se soucier d'un tel ou d'une telle, espérer, craindre pour cette mère, être en colère quand il pense que certains mentent, ressentir de la honte, être heurté par la forme de propos de certains professionnels, être accablé par l'annonce d'un cancer ou d'un refus de séjour. Ces propensions inhérentes au contexte médical et social, peuvent le faire dévier du cœur de son travail. Ses traductions en seront altérées, sa fiabilité et sa crédibilité remises en cause, car il perdra la confiance des personnes pour qui il traduit. À l'instar des contextes médicaux, sociaux ou médico-éducatifs, le partage de ses expériences vécues avec des pairs au sein de groupes d'analyse de pratiques nous semble indispensable à l'interrogation de sa pratique et au développement de capacités de décentration et de distanciation. Grâce à elle, l'interprète va non seulement affiner ses performances linguistiques, mais surtout asseoir son positionnement professionnel en habitant avec sens les principes déontologiques. Il pourra ainsi savoir tenir sa place en cas d'attente inopinée et investir pleinement et de façon légitimée son exercice d'interprète. En conclusion, nous avons ici témoigné de la complexité des exigences et des responsabilités de la pratique d'interprète médical et social, mais surtout affirmé une harmonisation de la fonction de celui-ci en France. Nous nous engagerons en ce sens dans la charte nationale qui sera présentée cet après-midi. Les trois piliers fondements que sont la traduction orale, l'attention et la disponibilité interculturelle et la distanciation et leur mise en œuvre sont la garantie de la déclinaison effective des principes déontologiques du métier. L'intervention bien menée de l'interprète professionnel doit permettre à chacune des deux personnes dont la relation est entravée par la barrière linguistique de retrouver pleinement son expression en tant que sujet actif et autonome. L'interprète et ou, quelle que soit la personne qui investit cette fonction, doit y être préparé. Nous le disions au début. Cela passe par des prises de conscience, des apports de connaissances, la construction d'une posture professionnelle légitimée. Cela se travaille, s'acquiert et se renforce. Nous avons la visée, la volonté, le projet, le désir qu'à l'issue de cette restitution, vous, institutions et professionnels de la santé et du monde social, vous distinguiez plus clairement le travail d'un interprète formé et professionnel, de l'aide d'un ami ou d'un membre de la famille. Que vous puissiez, en fonction des besoins, des attentes et des demandes, faire appel à la personne la plus pertinente. Comme je le disais au début, ici je suis seule sur l'estrade, donc ce texte a été écrit à deux voix avec Liliana Saban, mais sa matière, produite et créée à 10 associations, j'espère avoir été fidèle à nos travaux respectifs que nous avons. Nous avons en effet partagé des moments intenses et cordiaux de réflexion, de discussion, beaucoup investis. Nous souhaitons prolonger cette dynamique nationale dans les années à venir et pour vous informer, nous prévoyons nous rencontrer demain un grand nombre, une quarantaine de personnes, a priori autour, entre autres, de l'harmonisation de l'accompagnement de la formation des interprètes. Enfin, je voudrais rappeler que le sens et la finalité de nos actions concernent l'accueil de la personne migrante non francophone et le souci de l'accès aux droits et à la santé le plus juste, dont l'interprète médical et social professionnel en serait un levier essentiel. Merci de votre écoute.